Audiolib présente Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Lu par Emmanuel de Koning. Note sur la préface. Écrite en 1934 pour une réédition de Gatsby le Magnifique, la seule qui ait été faite du vivant de Francis Scott Fitzgerald et dont le tirage de 6000 exemplaires n'a pas réussi à se vendre, cette préface doit être lue à double sens. Elle répond en effet non seulement aux critiques de Gatsby, mais à celle de Tendre et la nuit, publiée 4 mois plus tôt, et qui avait été très mal accueillie. Préface. Demander à quelqu'un dont la vie professionnelle est entièrement vouée à l'univers de la fiction d'écrire une préface, c'est le soumettre à un faisceau de tentations diverses. L'écrivain qui s'exprime ici a choisi de céder à l'une d'entre elles. Il se propose de parler de la critique, avec toute la sérénité dont il est capable et sans trop s'éloigner du roman qui va suivre. Je précise pour commencer que je n'ai pas à me plaindre de la presse. Si Jack, qui avait aimé mon précédent livre, n'aime pas le nouveau, John, par contre, qui n'avait pas aimé le précédent, aime le nouveau, et l'un dans l'autre, le résultat s'équilibre. Mais je pense que les écrivains de ma génération ont été pervertis à cet égard. Car c'était une époque d'abondance, et les journaux consacraient une très large place à d'interminables palabres concernant l'art du roman. Place conquise en grande partie par H.L. Mencken, scandalisé par ce qui tenait lieu de critique, avant qu'il ne s'y consacre lui-même et ne se constitue un public fidèle. Son audace, l'amour pénétrant, passionné qu'il portait à la littérature, nous ont tous stimulés. Les chacals se font aujourd'hui les dents sur ce qu'ils considèrent, à leur risque et péril, comme un lion moribond. Mais la plupart des hommes de mon âge ont pour lui un profond respect et regrettent qu'il soit hors jeu. Il était ouvert à toute recherche, à tout nouvel écrivain. Il s'est souvent trompé, en sous-estimant tout de suite Hemingway, notamment. Mais ses armes étaient efficaces. Il n'a jamais été contraint d'en changer. Il a abandonné le roman américain à ses propres caprices, et personne ne l'a remplacé. S'il fallait sérieusement que l'auteur qui s'exprime ici attende quoi que ce soit des efforts déployés par nos réactionnaires politiques pour lui enseigner les valeurs d'une profession qu'il exerce depuis l'adolescence, alors bon, d'accord. Mes enfants, qu'on fasse sortir durant cet énergumène et qu'il soit fusillé à l'aube. Mais depuis quelques années, le plus décourageant n'est pas là. Il est dans la couardise de plus en plus grande des critiques professionnelles. Sous-payés, surchargé de besogne, il semble ne plus s'intéresser aux livres. Quelle tristesse de voir, cet an dernier, tant de jeunes romanciers mourir d'asphyxie faute d'un espace où se faire entendre. Nathaniel West, Vincent McHugh, combien d'autres? Je me rapproche peu à peu du thème de ma complainte qui pourrait se traduire ainsi. J'aimerais faire partager aux futurs lecteurs de ce roman un cynisme de bon aloi vis-à-vis des critiques contemporains. Sans être d'une vanité excessive, chacun a le droit, dans n'importe quelle profession, d'endosser une cotte de maille personnelle. Notre amour propre est notre seul bien. Si vous acceptez qu'il soit mis à mal par quelqu'un dont le métier est de mettre à mal, avant son déjeuner, une douzaine d'autres amours propres, vous vous exposez vous-même à une série de désillusions dont un vieux dur à cuire est à même de se préserver. Ce roman en est un exemple. Comme les grands thèmes aux noms ronflants n'encombrent pas ces pages, et qu'il ne parle pas des fermiers, qui sont devenus nos héros du jour, il était facile de prévoir qu'il n'aurait rien à voir avec la critique, mais qu'il pourrait toucher quelques lecteurs n'ayant pas les moyens nécessaires pour exprimer ce qu'ils ressentent. Qu'un homme prenne la responsabilité d'écrire un roman sans avoir une attitude précise et résolue face à l'existence est pour moi une énigme. Qu'un critique prétende analyser en quelques heures une vision particulière qui englobe 12 points de vue différents d'une réalité sociale me fait penser au passage terrifiant